France Inter.
Aujourd'hui, une histoire française de la pollution industrielle, racontée par
Thomas Leroux, chargé de recherche au CNRS en histoire.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Dans la nuit du 26 septembre 2019, le ciel de Rouen se teinte d'un noir de suie alors qu'un incendie spectaculaire ravage l'usine Lubrizol, productrice d'additifs pour lubrifiants. Environ 9500 tonnes de produits chimiques s'envolent en fumée ce jour-là, générant un immense panache qui étend son ombre toxique sur 22 km. Cet incident marquant pour la métropole normande fait écho à une autre catastrophe bien antérieure, est survenu presque au même endroit, à peine 500 mètres plus loin en effet, se tenait la fabrique de John Holker qui en 1770 a eu lieu donc dans cet endroit, à cet endroit, la première grande pollution industrielle chimique en France. En 1769, John Holker, industriel textile et par ailleurs inspecteur général des manufactures pour le compte du gouvernement, ouvre une fabrique d'acide sulfurique à côté de son usine de cotonnade. L'importance de cette installation est capitale. Les acides forts, tels que le nitrique et le sulfurique, sont essentiels à la métallurgie et au textile, deux piliers de la révolution industrielle. Mais rapidement, la présence de l'usine devient un cauchemar pour les riverains. Les vapeurs acides, corrosives, commencent à attaquer leurs plantations, détruisant la végétation et potentiellement leur santé. Face aux plaintes, un procès est engagé contre Holker. Après plusieurs mois de délibération, en septembre 1774, le verdict tombe. Les plaignants sont déboutés. Il est interdit de perturber l'exploitation de la manufacture. Cette décision, soutenue par les hautes sphères du gouvernement, marque un tournant décisif. Pour la première fois, la régulation des nuisances et des pollutions, traditionnellement gérées par les autorités locales, est prise en main par l'État, favorisant les intérêts industriels au détriment de la santé publique. La décision prise en faveur de Holker préfigure un cadre réglementaire qui, bien que modifié à travers les âges, continue de protéger les activités industrielles. Le décret de 1810, puis les directives Seveso sont des tentatives de régulation qui, tout en imposant des mesures préventives, assurent une certaine impunité aux industriels. L'incendie de Lubrizol en 2019 et la pollution de Holker en 1770 sont deux événements séparés par des siècles mais unis par un fil rouge, la difficile balance entre le développement industriel et la protection de l'environnement. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Thomas Leroux.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur avec Jean-Baptiste Fressos, François Jarige, Corinne Marache et Julien Vincent d'un livre « La nature en révolution, histoire environnementale de la France entre 1780 et 1870 ». Ça sort aux éditions de La Découverte, c'est le premier tome. Rouen, qui donc a été en 1770 le théâtre de la première grande pollution industrielle chimique. Et cet événement, donc, vous le racontez, marque un moment de bascule avec ce que vous nommez la fabrique de l'impunité.
Oui, c'est un moment de bascule parce que vous l'avez très bien résumé, cet événement. Mais on est au XVIIIe siècle, au tout début de la première industrialisation, un moment où l'industrie, elle n'a pas toute sa place dans la société, en fait. Elle peut être critiquée, elle peut être encouragée, mais elle est très débattue. Elle n'est pas d'utilité publique, en quelque sorte. Mmh. Et les régulations du XVIIIe siècle, jusqu'à cet événement de Rouen, et d'autres d'ailleurs, parce que c'est des régulations qui marchent par jurisprudence. Mais la police traditionnelle pour réguler l'industrie au XVIIIe siècle, c'est plutôt de soutenir les questions de santé publique et donc ça peut aller à l'encontre des intérêts industriels. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les communautés locales, au XVIIIe siècle, elles s'approvisionnent essentiellement sur place, que ce soit l'eau potable ou la nourriture. Il faut donc absolument pas perturber le milieu environnant et donc ne pas le polluer. Alors que de nos jours, bah, si on pollue une région en particulier, on peut s'approvisionner ailleurs. Donc ça rend la pollution possible, en quelque sorte, hein, la façon de s'approvisionner ailleurs. Et puis la deuxième raison, c'est que au niveau médical, les médecins considèrent plutôt que l'environnement est un facteur primordial, en fait, pour être en bonne santé ou en mauvaise santé. Et donc, les émanations des différents ateliers et fabriques peuvent être un danger pour la santé. On parle de miasmes à l'époque, hein, les miasmes, c'est-à-dire, bon, bah, toutes ces odeurs qui sont très, très difficiles à respirer et qui sont un peu les indicateurs de l'insalubrité.
Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de convoquer l'histoire et de mettre en miroir, par exemple, l'accident de Lubrizol, donc en septembre 2019 à Rouen, et celui de 1770, quasiment au même moment, en fait? Ça raconte un peu la même histoire?
C'est un petit peu la même histoire, et c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé, évidemment, dans les siècles qui nous ont précédés, parce qu'on a l'impression que, finalement, il y a une forme de naturalisation du phénomène industriel, qu'il est présent et que c'est normal, en quelque sorte, et qu'il faut vivre avec. Mmh. Et on vit avec, d'ailleurs. Et quand on regarde la longue histoire de l'industrialisation, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas tout le temps. On n'est pas sur un phénomène anthropologique, on est sur un phénomène politique et social, avec des jeux de pouvoir, avec des sphères d'influence qui vont plus ou moins diriger la façon dont on régule les pollutions, les nuisances, etc. Et quand on regarde en arrière, alors c'est vrai que depuis 200 ans, c'est un petit peu toujours la même histoire. Hein, mmh. Donc depuis cet accident, enfin cette pollution majeure de l'industrie chimique des acides sulfuriques à Rouen dans les années 1770 jusqu'à Lubrizol et d'autres événements. Mais avant l'industrialisation, évidemment, il y avait toujours des activités de production, des ateliers, des manufactures, mais le regard porté sur l'industrie était tout à fait différent, et il y avait des dispositifs juridiques par la catégorie de nuisance, donc on parlait pas de pollution, mais de nuisance, ouais. Et cette catégorie juridique permettait de traduire des industriels. Vous avez parlé d'impunité tout à l'heure, hein, la fabrique de l'impunité, ça permettait de traduire des industriels en cour pénale, donc on parle des assises de la nuisance, hein, c'est les termes juridiques des chambres correctionnelles ou criminelles qui statuent sur ces événements.
Et est-ce qu'elles donnent lieu vraiment à des condamnations alors ou pas?
Alors tout à fait. Donc ça, c'était un peu la surprise, enfin une forme de surprise, hein, de la recherche historique de ces 20 dernières années, de regarder ces questions de nuisance et de pollution avant l'industrialisation, ouais, ouais, ou au moment de l'industrialisation.
Donc c'est vraiment le passage entre la fin du 18e et le début du 19e siècle.
Exactement, et de constater, hein, de très nombreux procès avec des peines qui seraient qualifiées au pénal, donc en cour correctionnelle, voire en chambre criminelle, et avec des peines de prison. Alors, il n'y a pas de condamnation à mort, on n'en a pas trouvé, hein, ouais, même si ça aurait pu avoir lieu s'il y avait des incendies, des choses comme ça, puisque c'était la peine qui était donnée en cas d'incendie.
Donc, de la prison.
Prison ou amende, destruction d'usine.
Ah oui, on peut fermer l'usine directement aussi.
Et elles peuvent être détruites sans indemnisation, ouais, si l'industriel était condamné, en fait.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, on fait attention au lieu où on implante justement les activités par rapport à la population ou pas?
Alors oui, on a parlé là de l'aspect répressif, mais il y a tout un aspect préventif et normatif, hein. Donc les autorités de police, comme on dit à l'époque, hein, c'est-à-dire l'administration publique, elle a tout un arsenal de règlements qui sont issus du Moyen-Âge, en fait, par jurisprudence et par modifications successives, qui donnent des règles, tout d'abord des normes, hein, des normes de construction d'établissements, etc. Et la principale, en fait, c'est de ne pas construire des usines et des ateliers à proximité des habitations, si, ouais, possible en aval des rivières, en aval des lieux habités, pour ne pas polluer les, ouais, rivières quand on se trouve en ville. Et un autre aspect, c'est un aspect préventif assez important, qu'on retrouve encore de nos jours, finalement, mais qui existait déjà, qui sont les enquêtes de commodo et incommodo. Donc, commodité ou incommodité, qui permettent aux autorités de statuer sur l'ouverture ou non d'une demande faite par un industriel d'un atelier.
Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'il y a une prévention, il y a une politique de prévention des risques déjà?
Ah, il y a une politique de prévention. De toute façon, le risque principal, c'est l'incendie. Donc là, il y a toute personnages très importants, les architectes, les commissaires de la voirie, etc., ouais, qui inspectent les installations et qui donnent l'autorisation aux industriels et aux artisans de mettre en activité leurs fourneaux. Ouais. Et puis, il y a donc dans les enquêtes de commodo et incommodo, les commissaires de police, ce sont eux qui sont en charge de la salubrité du voisinage, qui mènent leur enquête, qui interrogent les voisins, qui interrogent les corporations, etc., qui donnent leur avis, qui visitent les installations et
donc
qui donnent le feu vert ou non.
Conseil de salubrité, c'est ça qui
existe? Conseil
de
salubrité, cette instance qui porte ce nom, elle a été créée en 1802 dans un tout autre contexte. Avant, finalement, il n'y avait pas forcément besoin de chimistes ou de scientifiques qui feront partie du conseil de salubrité, ouais, ensuite. C'est simplement des commissaires de police qui habitaient aussi dans les quartiers avec les habitants, qui étaient finalement les experts reconnus pour dire si un atelier ou un artisan était dangereux pour le voisinage, pour la santé publique.
Donc au début du 19e, les choses vont un petit peu évoluer avec la création de ce conseil. Alors c'est ça.
Il y a un grand basculement qui s'opère. On a parlé de la pollution chimique de l'usine Dolker à Rouen en 1770. Durant la première industrialisation, on voit éclore un certain nombre d'ateliers de manufacture de tout ordre, métallurgique, textile et chimique, notamment parce que la chimie est tout à fait essentielle à la première industrialisation. Et dans la chimie, on trouve les acides nitriques et sulfuriques, comme vous l'avez dit. On trouve aussi de l'acide chlorhydrique. Et puis, on trouve aussi différents produits tels que le sel ammoniac ou le chlore, qui ont des effets sur la santé, sur l'environnement, qui sont assez délétères. Et les voisins, les habitants se rendent compte. Et on est entre les années 1770 et les années 1810, dans un moment de bascule, de grand basculement des régulations, avec des industriels qui vont pousser pour industrialiser le pays, en tout cas pour faire fonctionner leurs usines. Et puis, d'autres acteurs, ça peut être des voisins, ça peut être des médecins, ça peut être des juristes qui vont...
Les forces contraires, on va dire,
quasiment. Voilà, forces contraires qui vont résister ou qui vont critiquer ou qui vont essayer d'accommoder le basculement. Mais ce basculement, il consiste en quoi ? Eh bien, il consiste finalement à ce que ces usines et ces ateliers aient droit de cité. Donc il y a une forme de pacte avec l'industrie. Il y a plusieurs étapes qui érigent finalement l'industrie en phénomène d'utilité publique, bien pour le pays, pour la prospérité, pour l'emploi.
D'accord, donc c'est quand même très pro-industrialisation à ce moment-là.
En tout cas, oui, par étapes et avec certains moments clés de basculement qui sont plutôt en faveur des industriels. Le moment principal, c'est le moment de la période napoléonienne en fait. Donc, comme tout le monde connaît cette période napoléonienne, 1800-1815, et notamment entre 1800 et 1804, on a un ministre qui s'appelle Chaptal, qui est lui-même fabricant d'acide sulfurique à Paris.
Jean-Antoine Chaptal.
Voilà, dont on connaît bien son nom. C'est lui qui crée les préfectures, c'est lui qui crée les chambres de commerce et d'industrie, et il crée aussi ce conseil de salubrité. Alors, ce qui est cocasse, c'est que lui-même était en procès... contre des voisins, en fait, en 1803, pour son usine d'acide sulfurique qui détruisait les vergers autour, etc. Il était ministre de l'Intérieur, donc en charge des régulations de pollution industrielle.
Donc tout va bien, on nage en plein conflit d'intérêts.
Ouais, d'autant plus que l'Académie des sciences commande un rapport, enfin c'est plutôt le ministre qui commande à l'Académie des sciences un rapport sur les industries insalubres, et qui est chargé de ce rapport, c'est Chaptal, puisqu'il était académicien, c'était un grand chimiste. Et donc c'est finalement...
Donc c'est un mélange des genres.
Le principal... accusé, qui est aussi le principal régulateur, est devenu le principal expert, en fait. Et c'est lui qui va créer le nouveau droit des pollutions industrielles qui perdure encore de nos jours dans son esprit, finalement. Et ça, c'est le fameux décret de 1810.
On va en parler avec vous dans un instant. L'État, donc, et les industriels, les compères pollueurs, on en parle avec vous dans un instant, en remontant le fil de cette histoire française des pollutions industrielles, jusqu'à nous d'ailleurs. Et puis Thomas Leroux, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr et sur nos réseaux sociaux.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour sortir de la pauvreté et gagner sa liberté, l'homme devrait donc asservir la nature. Avec le charbon, la nature nous fait même un cadeau. Enfoui sous la terre depuis des millénaires, il devient le premier combustible de cette révolution. La locomotive d'une extraordinaire frénésie industrielle. Partout en Europe, les usines poussent comme des champignons. En Angleterre, Manchester devient la capitale mondiale du coton. Au milieu du 19e siècle, la ville, ceinturée par 500 manufactures, est plongée dans le brouillard polluant de ses hauts fourneaux. C'est le prix de la modernité.
Thomas Leroux, vous qui êtes chargé de recherche au CNRS, on parle avec vous de l'histoire des pollutions industrielles en France. C'est l'objet également, en tout cas une partie de ce livre, La nature en révolution, une histoire environnementale de la France aux éditions de La Découverte. On le disait tout à l'heure, le 15 octobre 1810 est adoptée une loi qui vise à encadrer les industries polluantes en France. Est-ce que cette loi va vraiment changer la donne ou pas ?
Oui, elle change la donne sur le long terme. Hein. Comme on a dit, ce basculement 18e, 19e siècle. Et puis en plus, elle est durable. C'est-à-dire que encore de nos jours, même si la loi a changé, évidemment, et partout un peu dans le monde, l'esprit de cette loi, il est toujours là. Donc c'est une loi en fait très importante parce que en fait elle vient clore la série de débats qu'on a évoqués des années précédentes. Elle vient clore un grand nombre de procès qui avaient émergé dans les années 1800 et elle vient en fait confier à l'administration la régulation des pollutions essentiellement.
Donc c'est l'administration qui arrive au cœur des décisions.
Exactement, avec le système des préfectures en France et puis le Conseil d'État. Et ce qu'elle fait en fait, l'opération très importante qu'elle fait, c'est qu'elle va en fait rendre juridiquement la notion d'impunité industrielle très, très réelle, puisque les industries les plus polluantes, celles qui peuvent nuire à la santé publique, sont dans les mains du Conseil d'État et non plus des chambres pénales telles que c'était auparavant. C'est-à-dire que donc on a un processus de refonte du droit qui va dire en quelque sorte que l'industriel ne peut être ni délinquant ni criminel.
Donc ça veut dire que les sanctions sont moins lourdes pour l'industrie ?
Alors les sanctions, il n'y a plus de sanctions pénales, déjà. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, en fait. C'est une façon de protéger l'industriel. Et ensuite, les sanctions, ça peut être des sanctions de fermeture administrative, temporaires ou permanentes, mais c'est très, très rare, en fait, au cours du 19e siècle. La première usine fermée après ce décret de 1810, c'est 1834, en fait. Donc, il y a eu très peu d'usines fermées au cours du 19e siècle. Et puis ensuite, on parlera peut-être un peu du 20e siècle. Mais donc, les sanctions sont moins fortes. Les seules, finalement, sanctions qui peuvent... avoir un pouvoir incitatif pour l'industriel de réduire ses pollutions, ce sont les jugements en chambre civile, c'est-à-dire tribunal civil, pour des indemnités en fait qui seraient liées à des destructions, des dégâts autour de l'usine. Ça peut être des dégâts, par exemple, des récoltes pour un agriculteur voisin.
Alors justement, dans ce contexte d'impunité finalement de l'industrie, comment réagit le public? Comment réagissent les riverains qui eux subissent très concrètement les mauvaises odeurs, par exemple, ou les différentes pollutions? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
En fait, le 19e siècle est émaillé de contestations environnementales, comme on le dirait de nos jours. C'est aussi une chose qu'on dit dans ce livre, c'est que n'y a pas de prise de conscience environnementale de nos jours, parce qu'on pourrait remonter dans les années 1970 du 20e siècle, on le verrait déjà. Et en fait, si on remonte au 19e siècle, on voit déjà qu'il y a toute une série d'acteurs qui se battent.
Comment? De quelle façon? Ça se manifeste comment?
Ça se manifeste essentiellement par la voie administrative, parce que c'est l'administration qui est en charge de ça, donc par des pétitions, par des recours, puisque le décret de 1810 permet des recours quand même, donc dans les chambres administratives, ou par des procès en chambre civile. Et ça peut se manifester par des manifestations, ou ça peut se manifester de façon un peu plus pacifique, par des négociations de gré à gré avec l'industriel. Parfois, c'est acté devant notaire que l'industriel va indemniser ou va acheter des propriétés à ses voisins pour pacifier, en fait, les conflits.
Mais le monde ouvrier, par exemple, qui est aux avant-postes, finalement, de ces différentes pollutions, est-ce que d'abord il prend conscience des risques que ces nouvelles industries font peser sur leur propre santé? Est-ce qu'ils engagent aussi des démarches pour lutter contre ou pas?
Alors, il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle. L'ouvrier, il est plutôt dans un rôle de subordination au monde industriel. 1804, c'est le livre ouvrier. On ne peut pas changer d'usine comme il le veut. Ses moyens d'action sont limités. Des moyens financiers déjà, puis des moyens de connaissance des règles, de procédures, etc.
Donc c'est compliqué de protester.
C'est compliqué de protester, d'autant plus que l'ouvrier vit d'un salaire qu'il obtient de l'usine qui peut polluer son environnement. Donc c'est très compliqué pour un ouvrier d'attaquer un industriel pour lequel il travaille, parce qu'il peut perdre son emploi. Et donc, c'est pas que sa parole est muselée, mais ses moyens d'action sont très limités. C'est seulement à partir de la fin du 19e siècle, avec, premièrement, la force des mouvements ouvriers, les grèves, les internationales ouvrières, la montée de la pensée socialiste, communiste, et puis la création des syndicats à la fin du 19e siècle, que le monde ouvrier va pouvoir se mobiliser de façon générale pour améliorer la santé au travail. Et puis faire interdire un certain nombre de produits polluants, tels que, par exemple, le phosphore dans l'industrie des allumettes ou la céruse dans l'industrie de la peinture. Et ça, c'est lié aussi au mouvement ouvrier de la fin du 19e siècle.
Alors, tout à l'heure, vous parliez des médecins, justement, Thomas Leroux. Est-ce que le corps médical, lui aussi, va se faire entendre sur ce thème de la toxicité des industries?
Bien sûr, les médecins réagissent. Certains dénoncent le monde industriel parce qu'ils observent que des produits qui sont manipulés, vendus, mis sur le marché peuvent être toxiques. D'autres sont plus engagés en faveur du monde industriel parce qu'ils considèrent que ça apporte la prospérité et que ça apporte donc du confort, une amélioration du niveau de vie et donc une augmentation du niveau de l'espérance de vie. Donc les médecins sont en fait très très divisés. On ne peut pas dire les médecins ont été contre ou les médecins ont été pour. Ça dépend... la position qu'ils occupent, ça dépend des observations qu'ils font, mais il y a de nombreux médecins qui luttent contre ces pollutions. Je peux en citer deux parce qu'ils sont plus ou moins connus, mais il y a le médecin Faudéré qui occupe la chaire d'hygiène publique de la faculté de médecine de Strasbourg, un médecin assez prestigieux qui c'est lui le premier théoricien des pluies acides en 1810, au moment du décret en fait.
Hein, le terme, c'est celui qui l'emploie.
C'est lui qui, oui, tout à fait. Enfin, il n'emploie pas pluie acide, mais il regarde l'action de la pluie aux abords des usines de soude artificielle et il dit que la pluie a fait décomposer les végétaux. Donc, ce sont des pluies acides qui sont.
Un sujet qui a été beaucoup abordé dans l'Est de la France, hein, d'ailleurs. Vous parlez de Strasbourg.
Tout à fait, oui.
Il est originaire et c'est vrai qu'entre l'Allemagne et l'Est de la France, c'est un sujet qui a été très marquant.
Jusqu'au XXe siècle, bien sûr.
Décennies, hein,
exactement.
Absolument.
Puis un autre médecin, c'est François-Vincent Raspail, qui, lui, très critique dans une optique moins conservatrice que Faudéré, mais dans une optique plus socialisante, avec une réflexion sur la société capitaliste, mais qui lui aussi dénonce dans un livre en 1863, Appel urgent aux hommes éclairés contre les empoisonnements industriels, les effets délétères de l'industrialisation. Il parle d'une industrie coupable, d'une industrie meurtrière pour les ouvriers, pour les riverains et pour la population en général.
Donc c'est dans ce contexte, finalement, dans ce cadre de protestation grandissante quand même, et puis de libéralisation aussi beaucoup de l'industrie, que va s'ouvrir le XXe siècle, qui d'ailleurs est synonyme de quoi sur le front des pollutions industrielles? C'est quelque chose qui va se généraliser à l'ensemble de la planète à ce moment-là?
Alors, évidemment, c'est un changement d'échelle tout d'abord, parce que, alors il faut aussi dire qu'en 1800, il y a à peu près 1 milliard d'habitants sur Terre, hein, et que il y en a 2 milliards en 1900, et puis maintenant on est 8 milliards. Donc il y a un effet
donc
de masse de population,
une évolution démographique
très forte, avec des niveaux de vie qui sont sans commune mesure avec celles qui existaient il y a 200 ans, donc une consommation par habitant beaucoup plus forte. Donc tout ça réuni, ça crée une multiplication par un facteur, je ne sais pas combien, enfin très très élevé, là ça dépend de quelle époque on parle, mais du niveau de production. Donc le niveau de production a considérablement augmenté, donc ça crée un niveau de pollution, et puis il y a un changement aussi de nature qui est que à la fin du 19e siècle on commence à créer des molécules de synthèse, c'est-à-dire des molécules qui sont fabriquées en laboratoire, qui ensuite peuvent être commercialisées, mises dans l'industrie et aboutir à des produits dont finalement les chaînes moléculaires qui sont donc commercialisées, utilisées par les gens, donc n'existent pas dans la nature. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles soient toxiques, mais parmi celles-ci, il y en a qui sont toxiques. Il faut quand même savoir que depuis la naissance de l'industrie de la chimie de synthèse, donc au milieu du 19e siècle, il y a eu 10 millions de molécules de synthèse créées, dont 150 000 ont été mises sur le marché.
C'est donc ce moment de création des pesticides, hein, qui vont devenir l'une des industries les plus polluantes du siècle, le 20e siècle. Et on va écouter un extrait des Actualités françaises de 1957.
En Colombie, où la culture du coton a pris un essor considérable et occupe d'immenses espaces, l'avion prend définitivement la place du vulgaire pulvérisateur de nos campagnes. Mais sur ces contreforts des Andes, le pilote doit être en même temps un acrobate. Et l'on peut à juste titre s'émerveiller de la dextérité de ces semeurs de brouillard insecticide qui jouent à saute-mouton avec les collines.
Voilà, avion pulvérisateur de DDT, donc à l'époque en 1957. Voilà, un produit chimique qui incarne aussi ce moment tout à fait particulier où on arrive à épandre des produits tout à fait néfastes pour l'environnement et les humains.
Tout à fait, le DDT, donc c'est une molécule de synthèse à base de chlore qui a été synthétisée par le chimiste Müller. Müller qui d'ailleurs a été prix Nobel de médecine par la suite pour la découverte du DDT en 1948. Il l'a synthétisé en 1939. Mais le DDT donc fait partie de cette... c'est un élément plusieurs familles de pesticides qui se sont répandus au XXe siècle dans les agricultures du monde entier et qui au départ a été servi à un usage militaire, hein, puisqu'il a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre les moustiques dans la guerre du Pacifique. Et en fait ça c'était aussi le cas pendant la Première Guerre mondiale. Il y a énormément de produits qui ont été utilisés pour la guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qui se sont retrouvés en stock, en très très nombreux après la Première et Deuxième Guerre mondiale. On ne savait pas trop quoi en faire, on les a essayés sur les champs pour, comme insecticides, et notamment donc, le DDT, ça a fonctionné, et donc ce qui était utilisé comme arme finalement a été utilisé ensuite dans les champs pour détruire, c'était finalement une arme, on parle aussi de guerre aux insectes, hein, pour détruire donc, les insectes, les nuisibles, etc.
Le printemps silencieux de Rachel Carson s'inspire directement de cela. On va se retrouver dans un instant, Thomas Leroux, avec le fil de l'histoire que nous remontons jusqu'à aujourd'hui pour parler de la pollution industrielle en France.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Bonsoir. Le pire semble désormais écarté dans la région nantaise où les pompiers ont réussi à circonscrire peu après 16 heures l'incendie de l'entrepôt d'engrais qui dégageait un nuage extrêmement toxique. Si désormais le nuage toxique n'est plus alimenté par l'incendie, il est toujours présent dans l'atmosphère. Le nuage de chlore, d'ammoniac et surtout de vapeur nitreuse s'étend actuellement sur une vingtaine de kilomètres de long et plusieurs kilomètres de large. Les vents d'est le pousse vers la mer, écarte donc tout danger pour la ville même de Nantes.
C'était sur Antenne 2 le 29 octobre 1987. Thomas Leroux, vous qui êtes historien, cet accident industriel qui a marqué des générations de Nantais, un an après Tchernobyl, obligeant d'ailleurs à l'époque des milliers de personnes donc à quitter leur domicile. Outre la toxicité, on craignait à l'époque une explosion qui, fort heureusement, n'est pas venue. Et la ville est passée à côté d'une énorme catastrophe. Mais c'est le cas assez souvent, parce qu'on n'entend pas parler de tout d'ailleurs.
Non, on n'entend pas parler du tout. Alors, on a l'impression qu'on maîtrise les risques, en fait, parce que on est une société avec des technologies efficaces, etc. En réalité, même les statistiques même du ministère de la Transition écologique montrent qu'il y a une recrudescence des accidents depuis les années 2010, en fait.
Et pourquoi ?
Alors... On constate que il y a sans doute une surveillance qui est moins présente. Le nombre des inspecteurs pour les installations classées a décru depuis 15 ans. Ces inspecteurs font beaucoup de papiers et assez peu d'enquêtes de terrain. Ils en font moins qu'avant. Et puis, il y a eu ces réformes des nomenclatures en 2009 qui a fait basculer un certain nombre d'usines de la première classe à la deuxième classe, pour simplifier. Ouais. Ce qui leur a donné des contraintes un peu moins fortes, en fait. Et même Lubrizol 2019, qui a déjà été évoqué. Donc, dans les mois qui ont précédé, en fait, le préfet avait autorisé l'augmentation des dépôts des matières en vertu de nouveaux assouplissements de la loi ESSOC de 2018. Et donc, quand on regarde le droit depuis donc la refonte du décret de 1810, c'était en 1976, la loi ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, on se rend compte que depuis 45 ans, ou 50 ans presque, il y a une forme de dérégulation.
Donc l'impunité se poursuit finalement.
Elle s'est même renforcée parce qu'il y a moins de surveillance et les droits des tiers, pour faire des recours, en fait, ils ont été restreints. Et puis la loi ASAP, As Soon As Possible, pour la simplification de l'action publique de décembre 2020, a encore allégé les dispositifs pour rendre moins de contraintes, en fait, aux industriels. Et donc, il y a une forme de surveillance qui s'est relâchée, qui est encouragée par les pouvoirs publics, puisque trois jours avant Lubrizol... Donc, il y avait ce Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait présenté son plan de réindustrialisation de la France sur un rapport parlementaire du député Kasparian, qui avait prôné complètement la simplification administrative, comme il le disait, mais donc la dérégulation du droit en faveur des industriels.
Trois jours avant Lubrizol. Ironie de l'histoire, si on peut dire. Juillet 76, donc, vous en avez parlé, cette loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Et la même année, un autre souvenir qui a beaucoup marqué les esprits, c'est Seveso, catastrophe industrielle aux conséquences écologiques et sanitaires majeures dans le nord de l'Italie.
Samedi 10 juillet, à la ICMESA, une réaction servant à produire du trichlorophénol 100 balles. Le réacteur chauffe, les valves de sécurité sautent et plusieurs dizaines de kilos de produits toxiques s'échappent. Pour cette banlieue de Milan, c'est le début du cauchemar.
Nous avons vu cette poudre blanche se déposer partout et tout de suite après, les animaux ont commencé à mourir. Les poules, les lapins, les chiens, les chats.
Couverts de poussière blanche, eux aussi, les végétaux dépérissent à leur tour. Alors, dans la population, c'est d'abord l'inquiétude, puis la panique. Mais personne ne sait encore que 10 jours plus tard, la vie ici sera impossible.
Voilà, Thomas Leroux, un petit pas de côté dans cette histoire française des pollutions industrielles, parce que de toute façon, cet accident de Seveso, qui a été extrêmement médiatisé, va aussi modifier la loi en France.
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en 1976, le même mois, c'est en juillet 1976, donc il y a cette refonte de la loi en France, donc la loi ICPE, qui en fait était en préparation depuis plusieurs mois, et donc elle a été votée sans qu'il y ait de lien en fait entre l'accident et la loi française. En revanche, elle va aboutir à des discussions au niveau européen. Je rappelle le contexte, c'est le début de la construction européenne et notamment l'idée d'harmoniser les différentes législations. Et donc, Il y avait déjà des discussions de toute façon sur ce sujet, mais le mot Seveso a été repris parce que c'était un marqueur, une catastrophe à l'échelle européenne, on va dire. Et en 1982, donc il y a la première directive Seveso, et depuis il y en a eu deux autres, qui ont pour objet en fait d'harmoniser le droit des différents pays pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale, pour essayer de faire progresser aussi la surveillance, si possible, de ces installations et que ça ne se reproduise plus.
Thomas Leroux, s'il fallait conclure, résumer, synthétiser finalement cette discussion historique qui est très intéressante, puisque depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit finalement, c'est que ces lois ont fait primer avant tout les intérêts industriels, hein, plus que la protection de l'environnement et des personnes.
Quand on regarde de très haut et qu'on essaie d'avoir un schéma général de compréhension, c'est un petit peu ça qui se passe, effectivement. Hein. C'est la primauté donnée au développement économique qui est assimilée au progrès, en fait. Progrès matériel, augmentation du niveau de vie, etc. Alors, on voit qu'évidemment, ça a des limites, hein, parce qu'on voit qu'il y a certaines notions comme la bonne santé, enfin, les maladies professionnelles, la multiplication des cancers. On voit que le facteur environnemental, en fait, est aussi très important. Mais c'est ça le schéma général, c'est la primauté donnée aux industriels.
Pourquoi c'est compliqué finalement de réellement s'attaquer au problème, en fait ? Ça touche à quoi ? Qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte qu'en fait on est enchâssé dans un monde qui repose sur l'industrie. Nous-mêmes, à plusieurs niveaux, on en profite entre guillemets par des niveaux de consommation et qu'il est très difficile en fait de sortir de ce monde. Et le seul moyen d'en sortir, c'est qu'il y ait une régulation qui soit générale, c'est-à-dire coordonnée sans doute entre tous les pays. Finalement, c'est un peu utopiste, mais c'est le seul moyen, parce que la question des concurrences, par exemple, une législation nationale serait sans doute inefficace dans la mesure où d'autres pays viendraient inonder le marché. Donc c'est des questions de coopération internationale, donc c'est très très compliqué évidemment, surtout dans le contexte actuel.
Et une remise en cause de la production, hein, ce qui est encore plus compliqué si on veut vraiment aller à la racine du problème.
Du régime productiviste.
Ouais. Oui. Allez, on passe aux questions. Assia nous dit ceci, merci de parler de Lubrizol, le trauma reste fort et frais dans la vie des Rouennais, mais sans issue, la mort de Chirac a invisibilisé une première fois cette catastrophe, puis les autorités préfectorales, puis les décisions de justice une seconde fois. Je n'ose plus en parler, dit Assia autour de moi, car chacun veut oublier, se loger et travailler à proximité. Thomas Leroux, pour réagir à ce témoignage.
Oui, bah c'est souvent le cas. En fait, les procédures alors d'indemnisation ou de suivi épidémiologique ou de recours judiciaire sont toujours très très longs et on finit par oublier parce que en fait les effets sont latents, ils sont diffus, ils sont pas immédiats, donc c'est très compliqué de continuer à suivre cet événement. Il y a des recours qui sont encore en instance. Ça va prendre beaucoup de temps, hein. Pour AZF, ça a pris 19 ans pour le procès définitif au pénal. Donc voilà.
Rachel nous dit merci d'évoquer la grande liberté de polluer des usines chimiques au sud de Lyon, Rhône-Poulenc, Arkema. On préfère soigner, dit-elle, des personnes touchées par des maladies liées aux polluants plutôt que de contraindre des industriels florissants.
Ah oui, ça fait l'actualité, notamment les pollutions au PFAS, dont on parle beaucoup actuellement. Le couloir de la chimie au sud de Lyon est vraiment au cœur du problème.
Christophe demande comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui des sols ou des rivières polluées à la suite de départs d'installations industrielles toujours en France ?
Alors les industriels sont censés, en cas de fermeture, s'ils ferment leur usine, remettre le milieu dans lequel ils s'inséraient en état initial. On en parle beaucoup aussi pour les mines, mais en fait, en réalité, ils le font plus ou moins et c'est la collectivité publique qui prend en charge souvent les dépollutions. Hein, et les cas, ils sont très très nombreux.
Et puis un dernier message de Christophe, l'industrie qui pollue produit des biens matériels, mais ne mettons pas de côté, à tort, l'industrie nucléaire qui produit aussi des biens moins visibles certes, et qui peut polluer encore plus gravement.
Alors là, on est sur une autre dimension, hein, celui du risque nucléaire, sur lequel j'ai pas travaillé personnellement, mais en fait, effectivement, c'est lié. C'est la question du risque industriel dans son ensemble, et puis de la radioactivité qui est aussi un polluant, avec aussi...
La gestion des déchets,
puis une radioactivité globale dans l'atmosphère, de l'environnement qui a augmenté.
Merci beaucoup en tout cas à vous Thomas Leroux, je renvoie sur ce livre qui paraît, La nature en révolution, c'est le premier tome de cette histoire environnementale de la France, aux éditions de La Découverte avec Jean-Baptiste Fressoz, François Jarige, Corinne Marache et Julien Vincent. Merci également à Jean-Philippe Véret qui a préparé ce dossier. Merci à vous.
Merci.